Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce dimanche dans À voix haute, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir deux nouvelles de Jean Giono, extraites de Solitude de la pitié, paru chez Gallimard en 1932 et toujours disponible en poche en folio Gallimard. Vous allez entendre dans un premier temps Solitude de la pitié. Ils étaient assis contre le portillon de la gare. Ils ne savaient quel parti prendre, regardant la patache, puis la route huilée de pluie. L'après-midi d'hiver était là, dans la boue blanche et plate, comme un linge tombé de l'étendoir. Le plus gros des deux se dressa. Il fouilla des deux côtés dans sa grande housarde de velours, puis il cura du bout des doigts la petite poche de charpentier. Le postillon grimpait sur le siège. Il faisait déjà claquer la langue et les chevaux dressaient l'oreille. L'homme cria « Attendez !» Puis il dit au compagnon « Viens !» Et celui-là vint. Il flottait, tout maigre, dans une épaisse houppelande de bergère à bout d'usage. Le cou sortait de la bure, décharné comme une tresse de fer. « C'est pour où ?» demanda le gros. « Pour la ville. C'est combien ?»« 10 sous. » « Monte !» dit le gros. Il se baissa, écarta les pans de la houppelande, haussa la jambe de l'autre jusqu'au marchepied. « Monte !» il lui dit. « Fais fort, vieux !» Il fallait laisser le temps à la demoiselle de ramasser ses cartons et de se pousser. Elle avait un bon nez tout blanc à grosses lignes et elle savait qu'on voyait son nez sous la poudre de riz. Alors, elle le regardait toujours un peu de côté comme d'un air méchant. Et c'est pour ça que le gros lui dit « Pardon, mademoiselle. » Il y avait en face une madame potelée, douillette, dans un manteau avec de la fourrure au col et aux manches. Un commis voyageur qui se serrait contre la madame, et pour mieux la toucher au bas des seins avec son coude, il mit son pouce dans l'entournure de son gilet. « Appuie-toi là, » dit le gros en haussant l'épaule. L'autre pencha sa tête et la posa. Il avait de beaux yeux bleus immobiles comme de l'eau morte. On allait au pas parce que ça montait. Le bleu des yeux accompagnait le passage des arbres, sans cesse, comme pour les compter. Puis, on traversa des champs plats et il n'y eut plus rien dans la vitre que le ciel gris tout pareil. Le regard s'immobilisa comme un clou. Il allait se planter droit dans la madame potelée. Mais il avait l'air de regarder au travers, plus loin, tout triste, comme un regard de mouton. La dame serra son col de fourrure. Le commis voyageur toucha le devant de son pantalon pour voir si c'était bien boutonné. La demoiselle le tira sur sa jupe comme pour l'allonger. Ce regard était toujours planté au même endroit. Il y déchirait. Il y faisait du pus comme une épine. La dame essuya ses lèvres avec la peau de son gant. Elle sécha ses lèvres qui luisaient d'une salive douce. Le commis voyageur toucha encore le devant de son pantalon, puis il déroula son bras plié en imitant un qui a la crampe. Il essaya de fixer en face ce regard d'eau morte, mais il baissa les yeux, puis il mit la main comme sur son cœur. Le portefeuille y était bien. Il le palpa quand même dans son contour et dans son épaisseur. Une ombre emplit la voiture. La petite ville accueillait l'avenue de la gare avec ses deux bras de maison pleins de dartres. Elle présentait d'un côté un hôtel du commerce et des jardins. De l'autre, trois épiceries jalouses et aigres. Monsieur le curé débourra sa pipe dans le bassin aux offrandes. Le cendrier était là-bas sur le rebord du prie-dieu. Il mit la pipe chaude à l'étui. Il s'agissait maintenant de classer par rue et par maison ces numéros des veillées religieuses qu'il allait distribuer aux abonnés. Il manquait 3 livraisons. Il souleva les livres et un numéro de la croix tout étalé. À la fin, elles étaient là, sous le paquet de fraissures de porc que son frère venait d'apporter. Ça n'a pas plus de soin. Une couverture était tachée. Il l'inclinait dans le jour gris de la fenêtre pour voir si ça se voyait bien, si, en le donnant de biais, ou bien alors, il n'y avait qu'à le donner tel que, à Madame Purel la lampiste, elle n'y voit guère. Elle a toujours les doigts pleins de pétrole, elle croira que c'est elle. Il y avait aussi là, sur le plancher, et laissée aussi par l'Adolphe, une plaque de fumier d'écurie à l'empreinte d'un talon. Monsieur le curé se leva et, à petits coups de pointe de souliers, poussa l'ordure jusqu'à l'âtre. « Marthe, on a sonné !»« Quoi ?» demanda Marthe en poussant la porte de la cuisine. « On a sonné, je dis !» Sur la servante, la mince ficelle du tablier départageait les grosses mamelles et le ventre. « Encore ?»« Aussi, monsieur, vous pourriez un peu aller voir. Toujours monter, descendre, moi, avec mes jambes, mon emphysème. Vous en verrez la fin à la fin. » On sonna encore une fois. « Allez un peu voir, vous. Si c'est peu de choses, vous le réglerez en bas. Avec ce temps, ceux qui montent me salissent partout. » Elle avait la figure toute mouillée de graisse. C'est en plaçant les bardes de lard, elle dit. Le garde-manger est trop haut, une a glissé et je l'ai retenue avec la joue. Voilà, cria le curé dans le couloir. Puis il tira les verrous et ouvrit la porte. Bonjour, monsieur, dit le gros. Le maigre aux yeux bleus était là derrière à grelotter dans sa houppelande. On ne peut pas donner, dit le curé en les voyant. Le gros retira son chapeau. Le maigre porta la main en l'air, le regard planté dans le curé. « Vous n'auriez pas quelque petit travail ?» dit le gros. « Un travail ?» Et le curé avait l'air de réfléchir, mais en même temps, il poussait doucement la porte. « Un travail !» Il ouvrit la porte en plein. « Entrez !» il dit. Le gros, qui avait remis son chapeau, l'enleva encore à la précipité. « Merci bien, monsieur le curé, merci bien !» Et il racla ses souliers au racloir et il entra en courbant un peu l'échine malgré la haute imposte de la porte. L'autre ne dit rien. Il entra tout haut et les pieds sales. Il suivait les gestes du curé avec le froid triste de ses yeux bleus. On entrait dans un couloir charretier parce que la cure avait été dans le temps une maison à seigneur des champs. Venait après une cour carrée. Dans cette cour, les escaliers s'appuyaient puis montaient à grands élans carrés comme la cour. « Attendez-moi là !» se souvint de dire le curé en regardant les pieds boueux. Il monta. Le gros eut un petit sourire en silence. « Tu vois, ça va aller, » il dit. « 20 sous qu'on a dépensés. » « Marthe, » dit le curé en entrant puis aussitôt, « qu'est-ce que tu fais là ?» C'était un plat posé chaud sur la table de bois blanc. Et là-dedans, la fraissure grésillait avec des morceaux de foie violet comme des fleurs et des riz en grappes. « Une picoche, » dit Marthe. Et elle se mit à verser en mince fil un vin épais à parfum de cèpe. La graisse bouillante se tut. « C'est pour ce soir ?» demanda le curé. « Oui. Dis-moi, Marthe, sais-tu à quoi j'ai pensé si on profitait de se faire arranger le tuyau de la pompe ?» « Faudrait descendre dans le puits, » dit Marthe qui réglait le fil du vin. « Eh oui, » dit le curé. Elle ne dit rien, puis elle releva le goulot d'un coup sec. Elle porta le plat au feu. « Et vous le trouverez, vous, celui qui descendra ? Vous savez ce qu'il a dit, le plombier ? Il n'avait pas envie de se tuer. C'est un vieux puits, et puis de ce temps, vous le trouverez, vous ? Écoute, il y en a deux en bas qui demandent quelque chose à faire. Ça a l'air de gens qui ont besoin. Alors, faut profiter, dit Marthe, parce que vous savez, le plombier, il n'y descendra jamais, il me l'a dit. S'ils ont besoin, faut profiter. Voilà ce dont il s'agit, dit le curé. Nous avons une pompe et le tuyau de plomb était cramponné contre la paroi du puits. Le crampon ou les crampons ont dû lâcher. Le tuyau s'est décollé, on pourrait dire, et il fait le serpent dans le vide. Il pèse comme ça sur les boulons du haut et ça pourrait s'arracher en plein. J'ai de ces crampons, justement. Il faudrait descendre.
« Il est profond, votre puits ?» demanda le gros.
« Non, dit le curé. Non, oui, enfin, pas trop. Vous savez, c'est un puits de maison. 15-20 mètres au plus.
Il est loin ?»«
Non, il est là. »
Le curé marcha vers un côté de la cour et le gros suivait et l'autre suivait dans sa houppelande.
C'était un portillon dans le mur et dessous une auge en vieille pierre mangée d'eau.
Il ouvrit le portillon, les gonds crièrent et il tomba 2 ou 3 pots de rouille sur les dalles.
Voilà, vous voyez.
Le puits souffla une aigre haleine de plantes de nuit et d'eau profonde. Il y eut le sclouf d'une pierraille détachée et qui tomba. Le curé, très en arrière, se pencha et en même temps il reculait son derrière et on entendait se crisper ses orteils dans son soulier.
Voilà, vous voyez.
Il eut l'air de vouloir s'excuser.
Comme vous êtes deux, dit-il.
Le gros regarda alors son compagnon. Il était là, toujours flottant dans sa houppelande grise. Il n'avait pas de visage, sauf les yeux bleus froids, toujours plantés dans la soutane noire du curé, mais regardant au travers et par-delà l'âme triste du monde. Il tremblait et il avalait péniblement sa salive à grands coups de pomme d'Adam.
« Bon, monsieur le curé, dit le gros, ça fera. Je suis seul, mais ça fera. »
Marthe parut au balcon de la galerie.
« Monsieur le curé, ça va être l'heure de votre leçon de musique. »
À ce moment juste, on sonnait. Il alla ouvrir. C'était un petit garçon blond dans un beau paletot de laine.
« Montez, monsieur René, dit le curé. Je vous suis. »
Il revint vers les hommes. « Le mur est peut-être un peu mauvais, dit-il.
« Mets-toi là, vieux, dit le gros.
Il y avait au fond de la cour une porte. Derrière, on entendait courir et crier des lapins.
« Mets-toi là, assieds-toi. Tu n'as pas froid, pas trop. »
Puis il s'assit à côté et il commença à délacer ses souliers.
« J'aime mieux pieds nus. On se retient des ongles. »
Puis il déboutonna son pantalon housarde et il le retira.
« La jambe joue mieux et puis c'est lourd. Mets-le sur toi, ça te tiendra chaud. »
La respiration du puits fumait dans l'air froid de la cour.
« Si j'ai besoin, je crierai, dit-il au moment où il enjamba le rebord.
Il se tenait encore des mains et on voyait encore sa tête. Il regardait en bas dans le noir. On sentait qu'il était en train d'assujettir ses pieds.
« Je vois les trous, vieux, ça va aller. »
Il disparut. On entendait un air d'harmonium, une spirale de notes montantes qui s'accrochait 3 en 3 et dardait, semblait-il jusqu'au ciel, le balancement d'une tête de serpent. C'était joué assez habilement par monsieur le curé, puis, reprise après un silence, par les mains gourdes de monsieur René. Le jour diminua. Sur la galerie de bois, là-haut, au premier étage, il y avait une rangée de pots à cactus et un pot avec une touffe de violettes. L'homme regarda les fleurs. La nuit coulait dans la cour comme le fil d'une fontaine. Bientôt, on ne vit plus les fleurs. La nuit montait jusqu'au 2e étage. L'homme se dressa. Il s'approcha du puits, chercha l'ouverture en tâtonnant de la main. Il se pencha. On entendait en bas, semblait-il, une espèce de raclement.
« Hé !» il cria.
« Hé !» répondit l'autre d'en bas. Ça vint au bout d'un moment, tout étouffé dans un matelas d'air.
« Tiens-toi bien !» dit l'homme.
« Oui !» répondit la voix. Puis elle demanda.
« Et toi là-haut, ça va ?»
L'homme revint s'asseoir au moment où Marthe ouvrait la porte et paraissait à la galerie du premier une lampe à la main.
« Vous y verrez comme ça, monsieur René ?»«
Tirez la porte. » Le garçon blond tira la porte. Marthe regarda dans la cour.
« Ils sont partis, je crois, » dit-elle.
Le gros marcha dans l'ombre. On entendait ses pieds boueux claquer sur les dalles froides.
« Tu es là ?» il demanda.
« Oui.
Donne-moi mes pantalons, c'est fini. »«
Fais pas chaud, » dit-il encore une fois vêtu. La maison était toute silencieuse, sauf le grésillement d'une friture qui coulait du premier.
Il appela. « Monsieur le curé ?»
La friture empêchait. Il cria.
« Monsieur le curé ? »
Quoi ? Demanda Marthe.
C'est fait, dit l'homme.
Quoi ? Demanda encore Marthe.
La pompe.
Ah, bon, je vais voir.
Elle rentra dans la cuisine et essaya de donner un coup de pompe à l'évier. L'eau coula. Monsieur le curé lisait près du poêle dans le grésillement de la friture.
Ça coule, elle dit.
Il leva à peine les yeux.
Bon, on va les payer.
Combien je donne ?
Ça a été vite fait, somme toute.
Et tirait bien la porte.
Mais elle les accompagna, les regarda sortir, puis enclencha durement le loquet, poussa le verrou, mit la barre. Il tombait une pluie tenace et froide. Sous le réverbère, l'homme ouvrit sa main. C'était 10 sous. Les yeux bleus regardaient la petite pièce et la main toute mâchurée d'égratignures et de boue. « Tu te fatigueras, » dit-il. « Je te suis une chaîne, moi, malade. Tu te fatigueras, laisse-moi. »
« Non, » dit le gros, « viens. »
À voix haute, Meredith Ledez.
Destruction de Paris. J'arrive de Paris. Hier, dans la nuit, le petit chemin s'est frotté contre moi. J'ai senti son herbe mouillée sur mes chevilles. Des ronces nues retenaient mon manteau. J'ai poussé ma porte.
Mon chien s'enrace, a bondi vers mon visage en lapant l'air à grands coups de langue. Mon chat a sauté sur mon épaule. Mon chat neuf. Un petit animal étrange, feu et noir, un chat de branche, un chat sauvage venu il y a un mois du delà des choses terrestres, à travers les branches d'un arbre jusqu'à moi qui marchait dans les collines. Il y avait une belle lune entière, tout à moi. Je me souviens de cet homme, rencontré boulevard Saint-Germain. Il venait d'arracher un journal à un marchand. Il avait eu des gestes précis pour ça. Main tendue, doigts prestes, un regard pour la pièce de 5 sous, pas de regard pour le journal, et maintenant il courait sur le trottoir, la feuille dans son poing. Il avait un visage tout crispé, des yeux qui regardaient loin mais avec tristesse, et de la fatigue plein sa bouche. Il courait, une course d'homme des villes. Je le suivis de mon grand pas. Je me disais, il est pressé, où va-t-il? Où le but? D'un coup, il s'immobilisa au coin d'un trottoir. Plus de hâte, la fin. Le but était là, un coin de trottoir quelconque. Pas même quelconque, à côté d'un marchand de fromage. Moi qui ai l'habitude des fumiers campagnards, j'étouffais dans cette odeur de camembert. Je voulais savoir le fin mot, j'attendis. L'homme lisait le journal, il était toujours triste et là. L'autobus arriva, d'un bond dont je ne le croyais plus capable, l'homme s'élança. Je le vis à travers les vitres s'asseoir, regarder vaguement son alentour, reprendre son journal. L'autobus démarra sur un coup de timbre. C'est pour cet homme-là que je veux écrire ce soir. Monsieur, mon cher ami, homme. Homme, voilà comment je veux t'appeler, tu permets? Homme, ne cours plus, ne te hâte plus. J'ai vu ton but. J'ai vu ton but parce que j'ai des yeux neufs, parce que je suis comme un enfant, parce que je sais comme les enfants. Ne cours plus, tu as pris la mauvaise route. Je t'ai regardé, je t'ai vu. Je sais regarder les hommes, et je ne veux pas croire que le but vers lequel tu courais, c'était ce coin de trottoir dans l'odeur des fromages, ou ce terminus de l'autobus sur une place pleine de boue. C'était ce que tu regardais là-bas, loin, avec tes yeux tristes. Écoute-moi, je vais te dire tout ça à toi, bien doucement. Tu as vu le soir cette pâte phosphorescente d'auto qui tourne sur la place de la Concorde. On dirait que quelque chose brasse cette pâte à grands coups. Ça crie, ça tourne, ça ne lève pas, ça n'a pas de levain, ça tourne puis ça s'écoule comme de l'eau claire et ça va croupir dans le fin fond des maisons. Tout ça, toute la ville, tout Paris se hâte et court comme toi vers le but. Aveugle, vous êtes des aveugles. Courez, vous pouvez courir. Le but est derrière votre dos. Il n'y a pas d'autobus pour cette direction. Il faut y aller à pied. Il faut qu'on vous prenne la main et qu'on vous dise « Venez, suivez-moi ». Homme, écoute-moi. Je vais prendre ta main et te dire « Viens, suis-moi. J'ai ici ma vigne et mon vin, mes oliviers, et je vais surveiller l'huile moi-même au vieux moulin tout enfumé parmi les hommes nus. Tu as vu l'amour de mon chien? Ça ne te fait pas réfléchir, ça? Ce soir où je t'écris, le soleil vient de se coucher dans un éclaboussement de sang. Le mythe premier de la mort du soleil, je ne l'ai jamais lu dans les livres. Je l'ai lu dans le grand livre, là, autour. J'étais un peu ennuyée hier matin parce que j'avais 3 pigeons en trop dans mon pigeonnier. 3 ramiers tout fiers et tout roucoulants qui sont venus faire soumission au grain de ma main. J'ai là, sous ma fenêtre, la fontaine d'une eau que je suis allée chercher à la pioche. C'est ça le but. C'est ça que tu regardais de tes yeux tristes, là-bas, au fond de l'air. Viens, suis-moi. Suis-moi. Il n'y aura de bonheur pour toi, homme, que le jour où tu seras dans le soleil debout à côté de moi. Viens, dis la bonne nouvelle autour de toi. Viens, venez tous. Il n'y aura de bonheur pour vous que le jour où les grands arbres crèveront les rues, où le poids des lianes fera crouler l'obélisque et courber la tour Eiffel, où devant les guichets du Louvre, on n'entendra plus que le léger bruit des cosses mûres qui s'ouvrent et des graines sauvages qui tombent, le jour où, des cavernes du métro, des sangliers éblouis sortiront en tremblant de la queue. C'était « Deux nouvelles de Jean Giono, extraites de Solitude de la pitié », paru chez Gallimard en 1932, Solitude de la pitié donc, et Destruction de Paris, toujours disponible en folio Gallimard. Cette émission a été réalisée comme toujours par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre en interlude musical la sonate pour violon et piano K304 de Mozart, Tempo diminuetto deuxième mouvement, par Petr Messierer et Stanislav Bogunia. Quant à moi, je vous souhaite un heureux dimanche soir et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles lectures à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.